Donc Benoît se passionne depuis déjà, même très jeune, depuis de longues années, pour l'économie libérale, à tel point qu'il a été parmi les fondateurs, et il est président actuellement, d'une société d'édition, l'Institut Copé. Hein, Copé était la propriété Necker.
C'est ça.
Necker, père de Madame de Staël, hein, pour qu'il me souvienne. Hein, Necker, qui aurait d'ailleurs pu sauver peut-être la France d'Ancien Régime, si Louis XVI n'avait pas subi les fortes pressions qui lui avaient été faites pour le virer. Et l'Institut Copé, donc, se joue avec des rééditions importantes, et tout récemment, des rééditions de l'œuvre de Turcot, qui est une œuvre majeure, naturellement, dans le domaine de l'histoire de la pensée économique. Il nous a amené ce matin, et c'est amusant, la traduction en chinois de Pierre Lepesant de Bois-Guibert. Vous voyez donc que la pensée normande va quand même loin. Hein, et cette traduction est la deuxième traduction en Chine de 2010. Donc, de
deuxième édition, hein, effectivement.
Récent, ici. C'est une. Ça montre quand même où est notre vie de Normandie conquérante, qu'on va quand même jusque. Voilà. Que nous allons quand même jusqu'à la Chine porter la pensée qui a pris naissance ici même à Paternay. Et dans la petite programmation qu'on a fait, Benoît prépare un ouvrage que nous aimerions beaucoup faire éditer, nous l'espérons avec la Fondation de la Région, pour cette prestigieuse lignée d'économistes normands, hein, qui part d'Oresme, donc au XIVe siècle, Montchrétien, Bois-Guibert, plus récemment Walras, qui est le père de l'école mathématique, et pour montrer que la Normandie fut vraiment pionnière mondiale en matière de pensée économique. Et à un moment où la Normandie cherche justement à apparaître comme une région monde, comme une région capable d'utiliser une notoriété qu'elle possède, mais qu'elle a toujours mal utilisée dans le monde, c'est un atout, c'est une manière que d'avoir été pionnière en son temps dans le domaine de la pensée économique. Et les partenaires étrangers, ils sont infiniment plus sensibles qu'on ne le pense généralement. Hein, moi qui ai souvent vu des Asiatiques ou des Américains en négociation, la référence au patrimoine est toujours fortement ressentie par eux, hein, infiniment plus qu'on ne le pense. Hein, les Asiatiques parce qu'ils croient à la géomancie. Quand on croit à la géomancie, on pense qu'il y a eu des sources de pensée liées à des lieux, liées à des vibrations, et que ces sources ne sont pas taries, hein, même si maintenant les bleds sont complètement paumés, comme cela peut arriver aujourd'hui. Les Américains, ben, ils ont une histoire très courte, hein, et du coup se passionnent, logiquement, pour l'histoire longue. Hein, ils pensent que des choses qui sont arrivées, qui sont développées, qui ont vécu, qui ont pu disparaître depuis, mais ont toujours une valeur aujourd'hui, hein, et que entre une région qui a connu des sources de pensée, d'initiatives importantes, même si cela remonte à des siècles, et puis la fameuse banlieue universelle avec toutes les facilités qu'elle apporte en transport, en ce niveau, cela, c'est quand même bien la région de vieille civilisation, la région liée à l'histoire longue, qui est attirante, hein, et c'est là qu'ils souhaiteraient éventuellement pouvoir s'installer, coopérer et développer. Hein. C'est un phénomène qu'on essaiera de mettre en valeur parce qu'il est très existant. Hein. Mais je suis toujours trop bavard et je vais laisser naturellement aux jeunes et talentueux de la nouvelle génération reprendre.
Je vous remercie.
Ce bel exposé.
Merci. Ben, je vais rebondir sur ce que vous dites par rapport à la valeur du patrimoine, et c'est vrai que je ne vais pas répéter ce que vous dites, mais des continents comme le continent américain ou asiatique s'intéressent beaucoup et portent beaucoup d'intérêt à l'aspect patrimonial de pays comme la France. Et c'est vrai qu'en France, on a toujours, on sait très bien que notre patrimoine est très important, est très valorisé, très apprécié. Mais mon domaine économique est souvent celui dont on ne parle pas. On sait très bien que la France a beaucoup de romanciers, de peintres, beaucoup dans l'art, dans la culture en général. Et on oublie souvent de mentionner l'importance, et alors notamment en Normandie, de la pensée économique. Alors c'est vrai que ce fut depuis déjà quelques années mon centre d'intérêt premier, qui est celui d'étudier et de publier avec l'Institut Copé les écrits et des études sur les économistes français du passé, principalement dans la tradition libérale, qui est une vraie tradition, une vraie école en France, et qui est celle qui a formé les principaux libéraux, la théorie du libéralisme économique ailleurs dans le monde.
Et quelques grands auteurs
libéraux en général dans le monde. Alors le libéralisme économique, souvent la figure principale en France, mais en France je vais revenir en détail, donc, mais en général on parle souvent d'Adam Smith dans le grand public, et même dans les lycées on commence par ça, par apprendre aux lycéens et après aux étudiants en économie Adam Smith. On parle de Ricardo, l'école classique. Avant on mentionne rapidement François Quesnay, les physiocrates. Généralement, on oublie Bois-Guilbert, on ne va pas très très loin parce qu'on pense que ce n'est pas moderne, ce n'est pas mathématique du tout. Donc ça ne fait pas moderne, ça ne fait pas justement Valras, qui est important de ce point de vue-là, parce que les manuels actuellement en économie sont très mathématisés, très scientifiques. Ils essayent de ressembler à d'autres sciences plus nobles, considérées comme plus nobles, les sciences physiques notamment. Donc les précurseurs trop anciens, généralement, sont un peu oubliés par rapport à ça, par rapport à ce manque de formalisation mathématique dont il manque. Et alors, en général, la pensée libérale, donc Adam Smith est un auteur très important. Et justement, ces auteurs normands, ils se rattachent très fortement à Adam Smith en étant les précurseurs majeurs d'Adam Smith. Bois-Guilbert, notamment, une historienne américaine, dans un ouvrage, je pense que vous voyez à quoi je fais référence, dans les années 30, une historienne américaine a soulevé la similitude entre Bois-Guilbert, les écrits de Bois-Guilbert, et les écrits d'Adam Smith, en montrant des similitudes textuelles entre les deux et en essayant de prouver des emprunts à Bois-Guilbert chez Adam Smith. Donc, et moi, mon intérêt pour les économistes normands, il vient de là, en fait, il vient de justement la reconnaissance, parce que souvent l'approche qu'on fait en histoire de la pensée économique, c'est une approche complètement historique, puisqu'on essaye de voir qui est le précurseur de qui et jusqu'où on peut aller, qui a démontré le premier ce concept, qui l'a mis en avant, etc. Donc on a une approche uniquement historique. Et en consultant, en lisant, en étudiant et en publiant des textes, je me suis aperçu qu'on peut aussi faire une approche un peu géographique, puisqu'il y a un grand nombre d'auteurs qui parfois se retrouvent dans une géographie assez proche. Et la Normandie, effectivement, elle m'a marqué parce qu'au XVIIIe siècle, quand on remonte et qu'on cherche justement des précurseurs à Adam Smith, ceux qui sont mentionnés le plus, de la façon la plus importante sont justement Bois-Guilbert, sont Turgot, juste avant Adam Smith. Et Adam Smith a véritablement vécu en France pendant 2 ans. Il a rencontré justement les physiocrates et Turgot dans les années 1760. Donc les liens sont assez forts. Et quand on remonte même plus avant, jusqu'au XIVe siècle et au Resme, pour ceux qui ont pu voir un peu les panneaux de l'exposition, on peut remonter très loin et voir une influence, une importance très forte de la Normandie comme géographie. Donc je vais juste mentionner quelques noms qui permettront un petit peu d'aller un peu plus loin sur les panneaux et vous permettre aussi de faire le lien avec ce que vous avez pu peut-être voir. Juste mentionner quand même quelques noms qui sont également mis en avant. Donc Oresme, et voir également pourquoi ils sont si importants et pourquoi on s'intéresse à eux. Alors Oresme, tout simplement, c'est au XIVe siècle l'auteur du premier livre strictement économique au monde. Et donc il est normand, il est principalement, il fait une carrière ecclésiastique et comme conseiller pour les rois. Et il a une œuvre, il est traducteur d'Aristote, il a une œuvre assez vaste plutôt en philosophie. Il est quand même connu dans le Moyen-Âge. Et il fait un livre sur un traité des monnaies où il critique la manière qu'ont les rois de payer leurs dettes en dévaluant la monnaie. Et il trouve que c'est injuste. Et justement, en reprenant l'enseignement d'Aristote et des penseurs grecs, il démontre que c'est injuste et que c'est une façon très peu noble de faire fonctionner donc les finances du royaume. Et également, c'est un impôt, puisque forcément, les biens sont plus chers. Donc, c'est un impôt qui est levé sur le peuple et de façon qu'il trouve injuste. Et c'est le premier texte strictement économique, puisque précédemment, justement, Aristote, Platon et d'autres, dans d'autres pays, souvent font plutôt de la philosophie ou font de la morale. et ne parle pas strictement d'économie. Et lui est le premier à faire un livre simplement d'économie, sur une question économique pure. Et donc on est au XIVe siècle et on est déjà en Normandie. Et quand on avance au fil des siècles, on retrouve, quand on fait l'histoire de la pensée économique, on retrouve des Normands tout le temps et à des places très importantes. Alors par exemple, Montchrétien, qui est un autre auteur qu'on retrouve dans l'exposition, il est lui le premier à parler d'économie politique, qui est le terme qui va être remplacé par science économique un peu plus tard, vers la fin du XIXe siècle, quand les économistes vont vouloir apparaître un peu plus savants. Donc l'économie politique, ça faisait un petit peu recette de grand-mère, ça fait pas très sérieux, c'est pas mathématique. Donc quand ils vont commencer à faire des mathématiques justement avec Léon Valras, encore un Normand, ils vont chercher un autre nom pour se donner un peu plus de sérieux que précédemment. Et donc ils vont parler de sciences économiques. Mais Adam Smith parle d'économie politique, Jean-Baptiste Say, qui est un autre Français assez important, parle d'économie politique, tous parlent d'économie politique jusque la fin du XIXe siècle. Et le premier qui parle d'économie politique, le premier qui publie un livre qui s'appelle « Traité d'économie politique », c'est Montchrétien, un Normand, au XVIIe siècle, c'est en 1615. Et ce Montchrétien, alors il a une vie un peu tumultueuse, il commence un peu comme Boisguilbert par une carrière littéraire, où lui a un certain succès. Boisguilbert, finalement, il conçoit assez vite que ce n'est pas sa voie, et il en change assez vite. Mais ce Montchrétien, il fait une belle carrière comme auteur de poésie, de tragédie. Mais il vient à tuer un de ses comparses dans un duel. Et alors, il s'enfuit en Angleterre, il découvre l'industrie du couteau notamment. Et il revient en France quelques années après, en pensant donc, que l'affaire est un peu passée. Et il monte son industrie de couteau et il commence à s'intéresser à l'économie. Parce qu'il pense que c'est finalement une chose assez noble, contrairement à ce qu'en France on pourrait imaginer. Les conceptions sont encore assez étriquées sur l'économie. On pense que c'est quelque chose d'assez ignoble. On n'ose pas forcément écrire trop sur l'économie. C'est quelque chose qui n'est pas suffisamment intéressant, qui n'est pas comme la poésie, comme la littérature. Et donc ce Montchrétien écrit pour la première fois un traité d'économie politique avec des notions, la division du travail, la concurrence, qu'on retrouve plus tard chez Adam Smith, chez les physiocrates, donc de façon très intéressante. Et un autre, alors il y en a beaucoup qu'on peut citer, un autre qui est très important, c'est Turgot, qu'on a réédité, nous, il y a quelques mois, qui n'avait pas ses œuvres quasiment complètes en 5 volumes, qui n'avait pas été réédité depuis 100 ans maintenant. La dernière édition remontait à 1913, et donc on en a offert une nouvelle édition. Et Turgot, alors Turgot est très connu dans la tradition libérale, c'est un auteur important en France pour le libéralisme, et également, il y a 2 ans de cela maintenant, une chercheuse néerlandaise, il me semble, a fait un livre pour également essayer de trouver des correspondances entre Turgot et Adam Smith, parce que les deux se sont croisés, se sont rencontrés, ont échangé lorsque Adam Smith, avant de publier son œuvre, il est passé par Paris, il a rencontré un certain nombre d'économistes, et elle cherche à montrer qu'il s'est aussi inspiré donc, des écrits de Turgot, qui eux précèdent ceux d'Adam Smith. Et donc ce Turgot, il est connu du grand public, mais principalement comme ministre et pas comme théoricien. Pourtant, les deux se complètent. Et même comme réformateur, c'est un homme d'une grande puissance et d'un grand intérêt. Juste pour vous donner 2 exemples qui, à mon sens, montrent qu'il est très très important. L'un très très actuel sur la liberté du travail. Il a devant lui le régime des corporations qui remonte à très longtemps, voire au XIIIe siècle au minimum. On a des sources importantes sur les corporations. Les corporations, c'est les métiers pour faire un petit rappel rapide, c'est l'organisation des différents métiers, les boulangers, chaque métier a sa corporation et chaque corporation a ses règlements. Et on n'entre pas dans un métier, on n'est pas boulanger et tous les autres métiers. On n'est pas charron, on n'est rien du tout sans entrer dans une corporation, sans faire serment qu'on va respecter les règlements qui sont tout à fait tatillons et très, très détaillés sur le métier. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Et Turgot remplace tout cela en 1776, ou en tout cas il essaye, parce qu'après il va être renvoyé par Louis XVI. Il essaye de remplacer tout cela par une loi, par la liberté absolue du travail. Et donc c'est remettre en cause. Nous, aujourd'hui, quand on essaye de faire des réformes sur le code du travail, on touche à quelque chose qui est important, mais qui a deux siècles ou qui a moins que deux siècles encore. Et Turgot, quand il touche aux corporations, même plus que touché, puisqu'il les supprime complètement, il réforme quelque chose qui est de toute éternité. Pour les gens, c'est impensable. C'est supprimé... n'importe où, c'est la famille, c'est quand on supprimait le mariage, c'est supprimer des choses que on pense ont toujours été là de toute éternité. Donc cette chose-là est très importante. Et la deuxième grande loi qu'il fait, donc cette loi est complètement révolutionnaire, et la deuxième qu'il fait également complètement révolutionnaire, c'est sur la liberté du commerce des grains, qui est une denrée très importante à l'époque puisque on se nourrit principalement de pain. Et donc le commerce des grains, dont on parle, il y a également un tableau ici sur le traité des grains, Bois Guilbert et d'autres auteurs parlent beaucoup du commerce des grains. Et c'est quelque chose de normal sous la royauté depuis les premiers rois de réglementer le commerce des grains, parce qu'on considère que c'est une sorte de pacte entre le roi et la nation, que le roi favorise le bas prix du blé, qu'il fait tout pour éviter que le blé manque. Et en échange, finalement, c'est une sorte de contrat moral tacite, en échange, on doit obéissance au roi. Et donc c'est pour ça que dans les révoltes, c'est toujours des révoltes de famine, parce que quand le roi ne respecte pas finalement son contrat de garantir la nourriture au peuple, on a le droit finalement de ne pas respecter la part du contrat. Et donc Turgot remet complètement ça en cause. Et il favorise, il met en place un libre-échange total, en prouvant également par des théoriquement pourquoi ça fait sens, comme Bois Guilbert a pu le faire précédemment. Donc ce sont deux réformes qui sont, à mon sens, complètement révolutionnaires et qui sont, Turgot également à son château à Lanteuil, également très axé dans la Normandie, une grande famille normande des Turgot. Et qu'on a réédité donc récemment. Et alors, je vais vous parler d'un autre auteur un peu plus en détail, un autre auteur normand très important, qui est l'abbé de Saint-Pierre, et qui... alors, l'idée m'a été proposée parce que la région Normandie s'intéresse beaucoup à la paix et veut axer une grande partie de ses activités pour la défense de la paix. Et également, il s'avère que l'abbé de Saint-Pierre est également mis en avant comme l'un des précurseurs lointains de l'Union européenne, des institutions même de défense de la paix, comme peut-être l'ONU et comme a pu être la Société des Nations il y a en 1919, si mes souvenirs sont bons. Et donc je vais vous parler un peu plus en détail de l'abbé de Saint-Pierre et les autres auteurs, un certain nombre sont présentés lors de la... sur des panneaux que vous trouvez à l'intérieur du château. Donc je ne vais pas m'étendre davantage sur les autres, mais je vais vous parler un petit peu de l'abbé de Saint-Pierre, qui est un autre normand et qui a une grande importance sur la question de la paix, pour laquelle il est connu. Alors je vais vous... Juste deux ouvrages sur l'abbé de Saint-Pierre, pour ceux qui voudront en lire davantage. C'est une biographie ici de l'abbé de Saint-Pierre qui vient de recevoir cet été le prix de la biographie de l'Académie française. Donc, c'est assez rare quand un prix est donné à des auteurs dont je m'occupe et qui sont souvent assez méconnus. Et également, une série de conférences sur l'abbé de Saint-Pierre qui date de 2007 et qui est très intéressante, qui étudie les différentes facettes que je vais essayer de vous présenter rapidement. Et d'abord, peut-être dire quelques mots de sa vie. Parce que, alors, comme... Contrairement à Montchrétien et Bois Guilbert qui s'essayent un peu à tout, lui a une carrière assez, finalement, assez linéaire. Il commence par... il étudie alors à Caen et à Rouen chez les jésuites, ce qui est assez courant. Alors, il naît en 1658, pour vous donner un petit peu l'époque. Alors, il est entre... il est à cheval entre les classiques, Racine, Molière, l'ère classique, et les Lumières. Donc, il est en fait... Il est toujours un peu en dialogue permanent entre les deux. Il est toujours un peu héritier des classiques et toujours un petit peu anticipateur des Lumières, mais sans l'être trop. Il n'est pas trop révolutionnaire. Il est un réformiste, principalement. Il essaye de perfectionner les choses, mais il n'est pas dans une logique de renversement des choses. Il veut toujours perfectionner, mais sans révolutionner. Donc il étudie chez les jésuites à Caen et à Rouen, et par la suite il a une carrière assez donc linéaire. Il vient à Versailles pour assister comme aumônier, puisqu'il devient prêtre. C'est pour ça qu'on l'appelle abbé de Saint-Pierre, même si comme beaucoup d'abbés du XVIIIe siècle, il n'est pas très religieux lui-même. Mais il va servir comme aumônier de la belle-sœur de Louis XIV. Et donc, il se retrouve à Versailles et elle commence un petit peu à observer la société, l'économie, l'administration. Et il a des idées. Et il se lie avec des personnes influentes, avec Fontenelle, avec beaucoup de personnes intéressantes. Et il se retrouve, sans avoir rien publié, sans avoir rien écrit, rien fait finalement, il se retrouve à l'Académie française, à une époque où il y a pourtant encore Racine, Fontenelle. C'est l'âge d'or de l'Académie française, des très grands noms. Et il se retrouve là un peu parce que, tout simplement, des bonnes relations et peut-être un siège vacant, une bonne période, je ne sais pas. Et il se retrouve là. C'est pas pour ça qu'il va commencer un peu à écrire. Il va tarder un petit peu, mais il va observer, continuer à réfléchir. Et par la suite, plusieurs questions vont l'intéresser. Alors, il va, l'Académie française, il va y participer et commencer à donner son point de vue. Alors, il va essayer de réformer, de proposer des améliorations pour les séances de l'Académie française. Il trouve qu'on s'intéresse trop à des questions superflues. Il faudrait davantage œuvrer pour la moralisation des Français, pour l'éducation, pour des choses plus concrètes. Et par la suite, il va s'intéresser beaucoup à la paix. Alors, le projet de paix perpétuelle est quelque chose qui lui est très propre. C'est en 1712-1713. Alors, beaucoup de ses écrits, finalement, il réécrit souvent la même chose. Il essaye de convaincre les autorités, les gouvernements et le roi de ses idées. Et donc, il essaye de republier souvent les mêmes choses en remodifiant selon ses vues. Et donc, il propose un projet de paix perpétuelle. Et la logique, c'est que il assiste comme conseiller, apparemment on a peu d'informations sûres là-dessus, mais il assiste aux négociations de paix entre les différents souverains, car à l'époque on est sur une période plutôt de guerre perpétuelle, notamment sous Louis XIV, et il voit que les négociations, les traités de paix qui sont assez nombreux à cette période, ne résolvent pas la difficulté de conserver en paix les différentes nations, notamment européennes. Et donc il rêve, comme certains autres, mais avec des propositions concrètes, il rêve d'une Europe pacifiée, d'une Europe pacifiée dans laquelle on puisse faire un libre commerce également. Et c'est très proche des idéaux également, donc des fondateurs de la communauté européenne et de l'Union européenne par la suite. Et donc son projet, c'est de pacifier l'Europe. Et pour cela, il cherche des solutions pratiques. C'est pas précédemment, ses prédécesseurs parlent de la morale, de la paix, parlent du bon sens, de la paix. Et lui, il cherche à faire un règlement, à faire des institutions qui puissent garantir la paix. Alors l'institution principale, c'est une sorte... aujourd'hui, on l'appellerait comme ça, c'est une sorte de communauté européenne. C'est-à-dire que, et avec d'ailleurs tous les instruments qui aujourd'hui sont ceux de l'Europe, il parle même d'une banque européenne qui puisse avoir et conserver les réserves. Il veut qu'il y ait une union des princes et des États souverains européens qui se réunissent d'ailleurs dans une ville qui soit au carrefour de l'Europe, qui soit au centre de l'Europe, et en une sorte de parlement également, et dans lequel on puisse... débattre et solutionner les différends qu'il puisse avoir entre les différents pays. Et ce qu'il veut, c'est qu'on maintienne les frontières actuelles, enfin du temps en tout cas, et qu'on se mette ensemble pour, par l'arbitrage, trouver toujours des solutions pacifiques aux différends qu'il peut avoir entre les différents pays. Et également, il va être, on en parlait justement hier, il est également très intéressé par la question de l'orthographe du français, pour des raisons qui pourraient nous paraître, comme aujourd'hui d'ailleurs, à travers les siècles, on est toujours intéressé par la réforme de l'orthographe, pour simplifier le français, mais lui, il est intéressé pour une raison qui est assez différente, c'est qu'il souhaite également, puisqu'il veut une institution européenne, il veut une communauté européenne qui soit pour la paix et pour le libre-échange, il veut des institutions, également une armée commune européenne pour une sorte de casque bleu pour éviter les conflits et solutionner les conflits s'ils arrivent. Et il veut un français simplifié parce qu'il veut que le français, qui est déjà la langue plus ou moins européenne, commune, il veut que le français soit facile à apprendre et facile à utiliser pour les nations étrangères. On pourrait faire la même chose aujourd'hui, finalement, avec l'anglais, simplifier l'anglais pour, finalement, que tout le monde puisse échanger et également commercer, forcément, mais se comprendre et travailler ensemble. Et pour lui, c'est travailler ensemble pour la paix. Donc il veut qu'un français soit plus simple. Et son projet, c'est également là-dessus. Alors, il est très connu donc, pour ce projet de paix perpétuelle, d'Union européenne. Aujourd'hui, il est souvent un petit peu délaissé. Si vous allez sur les sites internet des institutions européennes, on vous parle plutôt des vrais fondateurs de l'Europe, comme on pourrait dire, les vrais fondateurs, ceux qui sont à la base des institutions actuelles ou de la communauté européenne, la communauté du charbon et de l'acier, après la Seconde Guerre mondiale. Ou si on évoque certains noms, c'est soit Victor Hugo et d'autres au XIXe siècle, ou alors on remonte très très loin à ceux qui pensent finalement une Europe, comme Erasme ou d'autres. Mais on s'intéresse peu à l'abbé de Saint-Pierre qui pourtant en développe toutes les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui. Et il se pose même des questions, quand on va un petit peu dans le détail, se pose des questions qui sont très actuelles parce que forcément on lui fait des objections et lui-même se fait des objections pour pouvoir convaincre. Il se demande, mais quid des différences des religions éventuellement entre les différents pays européens? Est-ce que ça peut poser des problèmes? Et pour lui... Et donc il se pose la question. Nous-mêmes, nous posons parfois ces questions-là. Donc c'est très intéressant de pouvoir le lire, puisqu'il essaye de convaincre également... qu'on le considère comme un utopique. Donc il essaye d'aller un peu au fond des choses. Et sur la religion, pour lui, il pense que, dans un premier temps, ça peut être une barrière. Mais par la suite, les religions, en communiquant davantage dans un libre-échange qui serait garanti par ces institutions européennes... Les différences et peut-être les mauvaises interprétations vont s'atténuer. Et la compréhension, et pour lui, la religion plus la vraie religion, ce qu'il appelle la vraie religion, sans qu'on sache exactement de quoi il parle, mais la vraie religion, pour lui, la religion peut-être plus moins concrète et plus métaphorique, va émerger naturellement du contact entre les peuples. Et il s'intéresse également, puisqu'on va lui poser la question, quelle est l'étendue de cette Europe, quelles sont dans la pratique des institutions. Alors, il y a notamment la question dans l'Assemblée qu'il imagine, quel est le poids des différents pays. Et pour lui, tous les pays doivent avoir une voix unitaire. Mais il se pose la question, mais qu'en est-il du prince de Monaco, de toute petite souveraineté? Faut-il qu'ils aient un pouvoir également? Et pour lui, il faut essayer de trouver la part des choses, il faut essayer d'une unité pour que tout le monde ait un intérêt à venir dans cette union et soit respecté dans cette union. Mais en même temps, il ne faut pas donner une voix importante, trop importante, à des souverainetés qui soient minuscules comme Monaco. Et également, il a cette question sur... les bornes de l'Europe. Dans un premier temps, et c'est quelque chose de la même façon que d'autres questions, il y revient fréquemment dans ses différentes reformulations de son projet. Il change fréquemment ses idées sur les bornes de l'Europe. dans un premier temps, il imagine assez vaste. Elle inclurait la Russie, elle inclurait même peut-être le Maroc, une façon d'Europe un peu méditerranéenne, également ouverte à d'autres pays qui voudraient la rejoindre, puisque c'est finalement dans sa tête au début, c'est un peu une, c'est un projet de paix qui n'est pas forcément européen. Et par la suite, on lui fait justement cette, cette réflexion sur une culture commune, peut-être, qui permettrait de fonder une, des institutions plus solides. Et donc, il recentre un peu plus sur une Europe qui soit plus chrétienne, qui soit plus strictement européenne. Et donc, il, la question de la Russie, la question également de la Turquie, qui est toujours également chez nous débattue, il... ce sont des questions qu'il pèse également en détail. Donc, c'est pour ça que moi, je le trouve très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'il se pose les mêmes questions qu'aujourd'hui, puisque ce sont toujours les mêmes questions sur la langue, sur la culture commune, sur éventuellement également la religion, sur la place de l'Europe, l'identité de l'Europe, toutes ces questions-là. Et il a l'étendue, la taille d'une Union européenne, jusqu'où elle s'étend, et également les rapports avec la Méditerranée, tout ça, il le pense, il le réfléchit, parce que si on lui pose des questions par rapport à son projet, est-ce qu'il est réalisable, est-ce qu'il est faisable. Et donc je le trouve très intéressant par rapport à ça. Et alors ça, c'est le milieu de sa vie. Alors la fin de sa vie est assez agitée, parce que il a tout un nombre incalculable de projets très divers. Ça, c'est son projet de paix perpétuelle. Il a d'ailleurs le titre de ce livre, ce sont les projets de l'abbé de Saint-Pierre, parce qu'il a un nombre incalculable de projets. Son projet sur la réforme de l'orthographe, c'est également un projet. Il a une vingtaine, une cinquantaine de projets. L'un des peut-être des plus fantaisistes, et encore, sont tous finalement assez raisonnables, on pourrait dire. Ils sont raisonnables, ils ne sont pas réformes, ils ne sont pas révolutionnaires, ils sont tous assez raisonnables. Il en a un qui est assez amusant et qui est assez, assez actuel. Il a son trémoussoir, ce qu'il appelle son trémoussoir. C'est un projet pour... il veut faire une sorte de chaise sur laquelle on puisse faire du sport sans bouger. Parce qu'il trouve qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées au manque d'activité. Alors c'est très vrai chez les nobles de l'époque. Alors il invente une sorte de chaise sur laquelle on fait de l'activité. Alors c'est son projet qui finalement est un ancêtre de nos vélos d'appartement et autres. Mais il est toujours assez raisonnable finalement. Il a toujours, d'ailleurs, la paix, les institutions européennes sont beaucoup de projets qui ont leur réalisation aujourd'hui. Et alors il va se mettre en avant un peu malheureusement pour un projet qui n'est pas finalement celui qu'on parle, pour deux projets qui ne sont pas ceux qu'on retient le plus. C'est d'abord un projet par rapport à la fiscalité qui est la taille, l'impôt, finalement l'impôt sur le revenu sous l'Ancien Régime. Et il critique la taille parce qu'il trouve qu'elle est arbitraire, qu'elle tombe, alors il y a effectivement un grand nombre de privilégiés sur lequel il essaye de corriger également. Il aimerait qu'on réforme en grande partie les privilèges. Et il pense l'impôt en disant qu'il faut que l'impôt, bien sûr, ne désincite pas au travail, ne désincite pas l'effort, puisque c'était assez fréquemment le cas à l'époque. Quiconque a l'air, puisque c'est constaté par œil, hein, c'est simplement des estimations de richesse des contribuables. Il n'y a pas de déclaration de revenus stricte. C'est à l'œil. Donc, quiconque donne l'impression de s'être enrichi en quelque temps va se faire imposer 10 fois davantage parce qu'on le considère comme riche. Donc, ce qui donne des scènes, par exemple, Rousseau, un peu plus tard, raconte une fois où il se promène. Alors, je pense que c'est dans le sud-est de la France, et il trouve assez désespéré une petite auberge, et quand il y rentre, tout est vétuste, il n'y a rien, il n'y a même pas à manger, il n'y a rien du tout. Et quand il se présente et qu'il explique, qu'il convainc qu'il n'est pas un agent secret du fisc, d'un coup, on sort du placard, de sous la table, tous les la vaisselle, de la nourriture, parce qu'on ne veut pas paraître comme riche, on ne veut pas sembler qu'on puisse payer, parce que si on peut payer, on paiera l'impôt. Si on ne peut pas payer, le collecteur viendra l'année suivante et puis on verra l'année suivante si ça a été mieux. Donc naturellement, les récoltes, on n'a pas récolté cette année suffisamment. Le bétail, il y a eu de grandes pertes, etc. Donc c'est un système qui paraît aberrant à Bois-Guilbert, à la baie de Saint-Pierre. Et donc il fait à nouveau un projet comme tous les ans, finalement, tous les quelques mois, il sort un projet sur quelque chose. Et donc il fait son projet sur la taille tarifée. Il veut qu'il y ait un tarif, que ça soit un peu plus organisé de manière raisonnable. Et mais il a le malheur dans cette taille tarifée de commencer à critiquer Louis XIV, qui est mort quelques années précédemment. Et à l'époque, c'est quelque chose, même aujourd'hui, on pense Roi Soleil, et puis le faste, Versailles, c'est le grand roi de la monarchie française. Alors, et à l'époque, ça l'est encore plus. C'est un règne très long également, donc on n'ose pas toucher à la mémoire de Louis XIV. Et lui le considère comme un roi qui n'a pas... Qui n'a pas solutionné toutes ces questions fiscales, qui a entassé les taxes, les règlements, qui n'a pas non plus, qui a été très guerrier, et donc il égratigne très facilement, ce qui ne plaît pas du tout à l'Académie française, puisque l'Académie française, ce sont que des notables qui apprécient naturellement, comme aujourd'hui, apprécieraient les subventions et l'appareil d'État en général. Et donc l'Académie française est très, très peu disposée à critiquer Louis XIV. Et l'année même, en 1717, après donc, sa taille tarifée, il produit un nouveau projet qui est un projet de polysynodie, qui est un terme qui veut dire pluralité des conseils, où de la même manière, assez raisonnablement, il veut résoudre la question de la monarchie, qu'elle ne soit pas despotique, et que le pouvoir ne soit pas trop concentré dans les mains du roi. Et donc il imagine une pluralité des conseils. Polysynodie veut dire pluralité des conseils. Il veut des sortes de conseils qui puissent assister et gouverner la France avec le roi. Et, alors il ne va pas jusqu'à une assemblée, il ne va pas jusqu'à une république, mais il veut un peu améliorer les choses. Et il propose cela, ce qui passe un peu à inaperçu. Mais encore une fois, dedans, il a une critique de la royauté de Louis XIV, considéré comme guerrier, lui, le défenseur de la paix, forcément, un roi guerrier, c'est quelque chose qui ne lui plaît pas. Il dit que Louis XIV a été le malheur de l'Europe, qu'il a semé la guerre, qu'il a également, puisque les deux choses vont ensemble, qu'il a créé un grand nombre d'impôts, qu'il a affamé le peuple, etc. Et donc cette critique, c'est beaucoup trop pour l'Académie française, qui décide de l'exclure, ce qui est extrêmement rare, parce que il me semble, j'ai regardé, il doit y avoir quatre exclus. Je ne sais pas si j'ai bien compté, mais je pense qu'il y a dû y avoir quatre exclus. Et alors, par exemple, il y en a eu deux après la Seconde Guerre mondiale, après leur procès de collaboration. Donc c'est quand même assez rare qu'on exclue quelqu'un de l'Académie française. Et lui a été un exclu de l'Académie française. Il n'a pas eu, comme les autres, son éloge par son successeur. C'est D'Alembert qui a fait son éloge, mais bien après, en 1775, il me semble. Donc ça a été un exclu, un banni, finalement, comme beaucoup de réformateurs. Bois-Guilbert également, à la fin de sa vie, est condamné à brûler tous ses papiers. Lui-même l'affirme, mais sans doute il ne le fait pas. Il dit « Amende honorable, j'ai publié des écrits, bien sûr. J'ai publié des écrits qui sont contre le roi, contre la fiscalité, contre l'organisation actuelle de l'État. Je me repentis et bien sûr, je détruis tous mes documents. Voilà. Je ne laisse, avec un petit peu de malice, il dit, je ne laisse que mes notes de Sully. En sous-entendant, je brûle, mais je ne brûle pas vraiment. Bon. Et donc lui est également une sorte de persécuté, l'abbé de Saint-Pierre. Donc il est exclu de l'Académie française et puis il finit sa vie à continuer à faire des projets, donc un multiple nombre de projets. Il réédite également ses anciens projets, il les retouche constamment. Le projet de paix perpétuelle, il est de 1712 pour la première conception, mais en 1713, il le retouche à nouveau. Le premier, il est un peu plus internationaliste, le deuxième... un peu moins, il est plus européen, stricto sensu. Et par la suite, il refait encore en 1717, il reforme encore son projet de paix. Et après, il publie un abrégé du projet de paix perpétuelle. Mais tout ça, c'est toujours un peu la même chose. D'ailleurs, Boisguilbert également, il écrit, Boisguilbert écrit le détail de la France en 1695 avec ses idées. Le livre a un certain succès, mais pas celui qu'il escomptait. Alors, il republie le factum de la France, hein, à nouveau avec plus ou moins les mêmes idées. On est beaucoup à l'époque, mais beaucoup d'ailleurs chez les Lumières en général, un peu plus tard, on réécrit souvent les mêmes idées sous des formes différentes. Voltaire également va mener un grand nombre de combats avec des écrits très nombreux, de circonstances souvent. Et donc l'abbé Saint-Pierre va faire un grand nombre de projets dans ce sens. Et il finit sa vie, et encore aujourd'hui, il est assez négligé parce qu'il a un destin un peu malheureux. C'est un précurseur, un inventeur finalement, qu'on condamne pour utopie au début, et qui après, dont on récupère tous les projets par la suite, qu'on applique sans le savoir par la suite. Et même en l'appliquant, on l'oublie parce qu'il est trop ancien, parce que on considère d'autres précurseurs, ou on l'oublie tout simplement. Et lui-même ne fait pas partie de cette grande tradition. Il n'est pas dans les classiques avec les grands auteurs, les Racine, les Molières. Et il n'est pas non plus dans les encyclopédies, parce qu'il n'est pas dans cette période. Il meurt en 1743. C'est le début de Voltaire, c'est le début de Montesquieu, mais ce n'est pas encore les Lumières, il est trop vieux. Il meurt à 90 ans. Donc c'est déjà bien, mais il est en fin de vie quand les Lumières commencent. Il est une sorte de passeur de témoins, de toute façon, entre les deux, mais il ne fait pas partie de cette période dorée dont on connaît les noms et qu'on enseigne aux enfants, les Diderot, les Voltaire, etc. Donc c'est un auteur qui est un peu malheureux et qu'on néglige souvent. Et donc l'une des missions alors, de l'Institut Copé et le travail que je fais sont justement de mettre en avant ces auteurs et qui forment une tradition, en Normandie notamment, une sorte d'école, on pourrait dire, qui sont animés, et qui sont animés notamment par un terme, Turgot notamment, et Boisguilbert, par le mot de laisser-faire. Là, on retrouve le libéralisme. Aux États-Unis, on parle encore de laisser-faire capitalisme, de capitalisme de laisser-faire, pour dire libéral, parce qu'ils trouvent que le terme laisser-faire... Ils n'ont pas de traduction, d'ailleurs, pour laisser faire, let it be, mais ce n'est pas exactement la traduction correcte, où il n'y a pas de traduction. Donc, ils utilisent ce terme qui fait partie de l'école française et qui est inventé par Boisguilbert. Boisguilbert dit on aurait dû, au lieu de réglementer, au lieu de vouloir tout contrôler, et tout diriger depuis Paris, et vouloir croire qu'on sait, que l'on peut faire par des lois... ordonner la société et l'économie, on devrait laisser faire les individus, leurs échanges commerciaux entre eux. Ils sont plus connaisseurs de leurs propres intérêts que des ministres à des centaines de kilomètres. Et Turgot, et bien sûr, dans ses réformes, il met en pratique cette doctrine du laisser-faire, il le reprend, et tous les auteurs d'une tradition française très importante est encore enseigné d'ailleurs ailleurs aux États-Unis, très connu pour cela, des Jean-Baptiste C, Frédéric Bastiat et d'autres penseurs parlent de laisser-faire et sont des théoriciens, si on veut, du laisser-faire. Et cette notion est reprise aux États-Unis et ailleurs pour parler du libéralisme. On considère que les libéraux actuels, les Milton Friedman, Hayek, enfin, actuels de la... Ils sont tous morts déjà, pour ceux que j'ai cités. Mais ces auteurs libéraux importants sont des successeurs et sont des théoriciens du laisser-faire, ce qu'on appelle le laisser-faire. Et ceci, cette notion est normande, elle vient de Boisguilbert, donc, qui a construit et a vécu dans ce château, et qui nous rapproche donc, du patrimoine normand. Et voilà pour ma conférence, j'espère que ça a été intéressant. Et si vous avez des questions, je vous en prie.